fait 1, 2, 3. Embarquez dans l'aventure, tous à bord.
L'émission des ambassadeurs du théâtre.
En direct et public au kiosque de la Pépinière.
18h30 à 20h.
Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Tous à bord, l'émission des ambassadeurs du théâtre La Passerelle qui organise le festival Tous dehors, enfin je vous le rappelle.
Nous sommes en direct et en public depuis le parc de la Pépinière à Gap. Nous sommes actuellement diffusés dans le parc et sur les radios RCF, RAM 05 et Fréquence Mistral.
Je suis Anne-Charlotte, accompagnée de Yaël, mon collègue, et de journalistes radio de RAM 05 et de Fréquence Mistral, Kevin et Ingrid. Nous avons aussi à côté de nous Lison et Paul. À la technique, nous retrouvons nos techniciens Liam, Nina et Justine.
Alors, quel est le programme pour ce soir, Anne-Charlotte?
Vous aurez des interviews d'artistes des compagnies Les Urbandigènes, Le Chafou, Le Pas d'Oiseau et Rose et Jacques Henry, deux bénévoles du festival.
Vous entendrez aussi une présentation de nos mécènes et la présentation du festival de BD du patron de Ludambule, Ken.
Alors,
les ambassadeurs, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de jeunes bénévoles allant de 11 à 18 ans et qui souhaitent découvrir les coulisses du théâtre de la Passerelle à Gap.
On a par exemple aidé le théâtre à accueillir les spectateurs avant les représentations. Mais on a aussi rencontré les différents types de métiers dans un théâtre, comme les techniciens et techniciennes, mais aussi la direction ou encore les personnes chargées de relations avec le public.
Chaque année, on a un gros projet différent. Ça fait depuis 3 ans que ça existe. Deux projets ont donc été créés. Cette année, le thème était la radio. On a donc imaginé une émission qui nous permettrait d'interviewer les artistes reçus à la Passerelle sur la saison 2023-2024.
Et pour clôturer cette saison, nous finissons avec un live pour célébrer le festival Tous dehors. On s'est aussi engagé comme bénévole pendant le festival Tous dehors. Vous pourrez nous croiser dans les rues.
Voilà, on participe toute l'année à des projets hyper sympas et intéressants par rapport au théâtre, tout en apprenant à monter un podcast.
L'année prochaine, vous aussi, vous pourriez y participer.
Alors, comment est-ce qu'on peut participer à ce projet, les ambassadeurs?
Eh bien, il faut juste contacter le théâtre et en fait, il vous mettra en relation avec Vincent, notre responsable. Et bien, on se réunira pour la première fois et on discutera ensemble, on partagera des moments et ce sera incroyable.
Eh bien justement, Vincent vient juste d'arriver sur le plateau. On va le recevoir pour parler un petit peu de ce projet des ambassadeurs. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, déjà te présenter au sein du théâtre, qu'est-ce que tu y fais au théâtre?
Eh bien oui, je suis Vincent Pugeot, je suis chargé des relations avec les publics au théâtre La Passerelle. Voilà, donc j'ai plusieurs missions assez différentes, dont les ambassadeurs du théâtre La Passerelle.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la jeunesse de ce projet des ambassadeurs? Comment c'est né?
Bien sûr, ça a commencé il y a maintenant 3 saisons. Donc le but premier de ce projet, c'est d'offrir une nouvelle porte d'entrée aux jeunes vers la culture, vers le spectacle vivant. Voilà, donc on leur propose un parcours spectateur. On leur propose, là comme ils ont déjà bien expliqué, des missions sur le festival. Et on leur propose aussi un projet vraiment qui couvre la saison. Donc les deux premières années, le résultat a été un escape game organisé et imaginé par les ambassadeurs. Et cette année, on a du coup décidé en partenariat avec RCF de mettre en place ce projet radio pour arriver à créer une émission, un podcast autour de la saison culturelle du théâtre.
Et pourquoi avoir choisi le support radio justement?
Parce que c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose aussi d'actuel, et le but c'est aussi de montrer aux jeunes que le théâtre c'est pas de la poussière, qu'on peut aussi imaginer des choses qui correspondent à notre époque, aux médias qu'on écoute, et aussi c'est aussi un moyen d'expression pour les jeunes, et voilà, ils sont très autonomes sur ce projet-là maintenant, où ils imaginent leurs questions, ils imaginent qu'est-ce qu'ils veulent dire aux artistes, parce que c'est une occasion pour eux de s'exprimer face à des artistes, d'en tirer quelque chose. C'est un média qui donne beaucoup de liberté.
Et sur une année, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'articule, tous les temps forts qu'il y a dans ce dispositif des ambassadeurs?
Ouais, bien sûr. Donc ouais, on a commencé par d'abord apprendre ensemble à faire de la radio, parce que c'est pas inné. C'est quand même plein de codes, plein de savoirs. Et ensuite, on a imaginé ce parcours spectateur. Donc ils sont allés voir 5 spectacles au total, répartis sur la saison. Le but c'était aussi de tout leur montrer, du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique. Chaque spectacle a été accompagné d'une interview de au moins un des artistes du spectacle. Ensuite, on a eu des sessions de montage. C'est des parties un peu moins rigolotes, mais inévitables. Et voilà, ils ont aussi pu aller voir des artistes en résidence. Ils ont eu des moments privilégiés, notamment avec Maël Maïs, qui joue sur le festival. Ils l'ont vu en résidence. Ils ont pu lui poser des questions sur sa méthode de travail. Voilà, c'est plein de temps forts réunis tout au long de la saison, jusqu'au bout, jusqu'à ce live là du
Donc,
poste dehors.
Donc un petit peu l'apothéose un peu de cette saison avec les ambassadeurs.
Exactement.
Et justement, toute la matière que vous avez un peu cumulée toute l'année avec les podcasts que vous avez fait, qu'est-ce que vous en faites à la fin? Ça va sur le site du théâtre? C'est diffusé quelque part en radio?
Exactement. Et ça sera diffusé en fait presque partout. Parce que le but c'est vraiment d'en faire une émission radio et un podcast. Donc le premier podcast est déjà sorti, c'était avec Leïla K qu'on a reçu au début de la saison, et c'est passé sur RCF en émission, et c'est podcastable pour l'instant sur le site du théâtre, et ensuite ce sera sur toutes les plateformes de distribution qu'on connaît tous.
Et là, je vais poser la question un petit peu à tout le monde, mais quel est le bilan un peu de cette saison avec les ambassadeurs, un peu pour tout le monde? Et est-ce que c'est un dispositif qui va être réitéré, qui a bien fonctionné, du coup, avec en radio, je veux dire?
Bien, j'ai vécu beaucoup d'expériences, rencontré plein de gens, et en fait, je pense que c'est quelque chose qui me servira toute ma vie, parce que j'ai pu manipuler la radio, apprendre à faire des montages, j'ai pu aussi travailler sur tous les dossiers pour... poser des questions à des personnes, donc c'est quelque chose qui me servira vraiment toute ma vie.
Ouais, je suis d'accord avec Anne-Charlotte, c'est super intéressant. Ça vraiment, déjà, ça nous a permis d'avoir une expérience assez hors du commun. C'est vraiment pas un truc qu'on peut faire tous les jours, et c'est une sacrée opportunité qui nous est offerte. Et voilà, donc réitérer, je ne sais pas, mais j'espère. Voilà. Et puis vraiment très intéressant. Et puis aussi sur l'aspect théâtre, pour le coup, ça permet vraiment de voir les coulisses, de comprendre véritablement comment ça se passe de l'autre côté. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est un point de vue qu'on n'a pas tous les jours.
Et du coup, en plus, finir cette année en participant au festival Tous Dehors, c'est vraiment finir l'année en beauté, et c'est super sympa.
Est-ce que vous avez toutes et tous une anecdote, un moment marquant à nous raconter sur cette année? Toujours pas.
Bon, on a eu des petits moments sympas en interview, des moments de complicité avec les artistes, c'était très sympa.
Des couacs
bien sûr. Des petites...
Et j'avais une question pour toi encore, Vincent. Justement, là, on a des personnes qui ont participé cette année. Est-ce qu'on peut participer plusieurs années de suite au dispositif des ambassadeurs?
Absolument.
C'est même
peut-être encore plus sympa, finalement, puisque effectivement, on va poursuivre ce projet radio sur la saison prochaine. Et du coup, c'est, je pense, encore plus intéressant si certains ambassadeurs qui ont déjà connu ce projet radio continuent l'aventure avec des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes. Comme ça, on peut en plus imaginer qu'ils puissent se former entre eux, qu'ils puissent profiter de l'expérience déjà établie par certains.
Merci Vincent, et tout de suite, musique. Save me. My hands, they're strong.
l'émission des ambassadeurs du théâtre.
En direct et en public au kiosque de la Pépinière.
18h30 à 20h.
À l'occasion de la soirée VIP, du lancement du festival de Tous dehors, nous avons interviewé Philippe Arianoff, le directeur de la Passerelle.
Alors moi je suis Philippe Arianoff, je suis le directeur de la scène nationale de Gap et directeur artistique du festival Tous dehors.
Ok. Comment vous est venue l'idée de faire le festival ?
Alors l'idée, elle est très simple. En fait, c'est que quand on dirige un théâtre avec une programmation dans les murs, on se dit que y a la meilleure manière pour toucher des gens qui ne poussent pas les portes d'un théâtre, c'est d'aller vers eux, donc dans la ville, dans les rues, sur les places d'une ville, dans les parcs publics, pour apporter du spectacle vivant des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller dans les théâtres. Donc là, l'idée, cette idée est venue comme ça, en disant organisons un festival des arts de la rue, parce qu'en France, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans l'espace public, et que moi, je dois être le reflet de la création d'aujourd'hui, et que dans la création d'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans l'espace public, qui font des arts de la rue, et dans toutes les disciplines. Donc je me dis, faisons un festival à côté d'une saison dans nos murs, pour toucher d'autres gens, faire grandir les publics et toucher vraiment un peu plus de monde.
Quelle est votre impression de la dernière saison qu'on est en train de faire?
De la dernière saison et de la dernière édition du festival Tous dehors, c'est une bonne impression. C'est un petit miracle que ce soit la 11e émission, parce que c'est pas facile à organiser financièrement, logistiquement, que les moyens des théâtres n'est pas forcément en hausse. Au contraire, ça patine, on n'est pas toujours réactualisé. Mais le jeu en vaut la chandelle et on revient à une édition de 15 spectacles. Il y a une même 16, mais un qui a été annulé malheureusement. Mais 15 spectacles, on revient au meilleur moment du festival avec beaucoup d'artistes très doués, très repérés dans l'espace public, avec des créations, du cirque, de la danse, du théâtre, de la musique aussi. Et avec un sentiment que le point névralgique du festival, qui va être le kiosque de la Pépinière, va être un des grands moments de fête, de rencontre, de partage d'émotions tout le long du festival. Donc je pense que ça va être une très belle édition pour tous et toutes. Pour tous.
Bonjour, je suis Lison. Nous sommes en compagnie de Laurent Hérochom de la compagnie du Pas de l'Oiseau, qui va nous parler de son spectacle Le Jour se lève encore. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous décrire en un aliment, une musique et un spectacle qui n'est pas le vôtre ?
Alors, ça, c'est pas mal. Un aliment ?
Oui.
Alors, un aliment, une banane. Parce que j'ai la patate et j'ai la banane, quoi. J'aime bien sourire et je trouve que c'est un aliment qui me fait penser au clown, en fait. La banane, tu sais, c'est un outil qui... la banane, ça nous fait tomber. Je trouve ça assez rigolo. Puis, comme je fais du vélo... je conseille à tout le monde la banane, c'est un bon outil aussi nutritif pour faire du vélo. Tu m'as dit un aliment.
Une musique.
Une musique. Ouais, je dirais un morceau de rap. Un morceau du dernier album d'Orelsan où il décrit une manifestation de l'intérieur. Ça me décrirait bien, je crois.
Et un spectacle qui n'est pas le vôtre.
Un spectacle qui n'est pas le mien. Il y a tellement de spectacles qui me touchent, qui me bouleversent. Je dirais quand même un spectacle, disons, de mon ami Pepito Matteo, qui est un conteur, qui a écrit son dernier spectacle, qui s'appelle La leçon de français, et qui arrive l'air de rien, avec une écriture hyper fluide, à parler des questions de migration, tout en étant très accessible, comme un conteur, quoi, voilà, c'est-à-dire en racontant de manière très simple. C'est les premières choses qui me viennent à l'esprit.
Très bien.
Bonjour, je suis Paul.
Salut Paul.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit speech pour présenter votre spectacle aux auditeurs ?
C'est galère de présenter mon spectacle. En fait, je raconte une histoire. Je raconte l'histoire de... couple. Grand-père. Donc en fait, je raconte l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui avec les inquiétudes d'aujourd'hui que vous connaissez, par contre, ça on les partage toutes, c'est-à-dire tous et toutes, le réchauffement climatique, les urgences qu'on a aujourd'hui tous. Et puis le début du XXe siècle, qui était une période où les gens ici, notamment dans les Alpes, on a l'impression que c'était il n'y a pas longtemps, 100 ans, mais 100 ans c'est incroyable, et tout ce qui s'est passé, mais il y a 100 ans, les gens ici n'avaient pas accès à la médecine, n'avaient pas de vacances, n'avaient pas de congés, n'avaient pas l'accès à une éducation, etc. Et ils étaient vraiment dans des grandes difficultés. Donc le spectacle raconte comment, dans ces moments-là, qui sont des moments très sombres de l'histoire de France, eh bien, ils ont quand même changé le monde. Donc s'ils ont réussi à changer le monde une fois, peut-être que c'est possible de changer le monde une deuxième fois, quoi. Donc du coup, c'est un peu ça l'idée du spectacle. C'est pour ça que ça s'appelle « Le jour se lève encore ». C'est l'idée que ben, le soleil il continue à se lever, et donc il faut garder un peu d'espoir et un peu de joie de vivre, quoi. Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien pitché le spectacle, je trouve ça super galère de raconter un spectacle.
C'est un exercice difficile.
Ouais, franchement, c'est chaud.
Je pense qu'on l'a bien compris.
Ouais, ça va, vous avez. Ouais. Mais en gros, je suis tout seul, je joue tous les personnages. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et du coup, on est vraiment. Il faut que le public fasse son travail et c'est le public qui se fait son film, quoi. Oui. Il va imaginer la maison, il va, voilà. Donc aussi c'est important de le dire ça dans un pitch, c'est que c'est du théâtre récit, voilà. C'est une forme de théâtre très simple, quoi.
Ok, très bien. Que diriez-vous à votre vous enfant petit?
Oh, j'adore cette question. Oh, elle est incroyable cette question. Oh là là, j'ai jamais réfléchi à y répondre, pourtant je la connaissais cette question. C'est hyper dur. Il faut que je respire, je vais fermer les yeux deux minutes.
S'il venait vous voir un spectacle par exemple.
Ouais, je sais pas. En tout cas, ce que je dirais à mon moi petit, c'est ne perds pas ton temps avec le regard des autres, avec l'image que tu veux donner ou. Et. Surtout, ne perds jamais le désir de se marier et de rester un enfant aussi. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas le perdre, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de devenir adulte. Quand on a 16, 17, 18 ans, on a envie d'aller plus vite, on a envie de sauter les étapes, et c'est normal parce qu'on a envie d'être responsable et qu'on nous respecte. Parce que parfois, quand on est des enfants ou des jeunes ados, on ne nous respecte pas vraiment. Et du coup, on a envie d'aller plus vite. Alors qu'en fait, le plus dur, c'est d'arriver à. C'est Brel, il disait être vieux sans être adulte, quoi. Et donc, ça, c'est vachement dur. Mais ouais, si je me croisais, je dirais, mais détends-toi, quoi. Si je me croisais, je lui dirais, mais détends-toi, ça va aller, ça va aller. La vie est belle. Moi, je suis content, j'ai bientôt 50 balais et je suis très content d'avoir bientôt 50 balais.
Ok.
Ok, ok. Tout à l'heure c'était très bien, là il dit ok. Ça veut dire que c'était une bonne réponse. Hein.
Merci, merci. Est-ce que jouer aussitôt, 7h du matin, ça modifie ton jeu et ton rapport au spectacle?
Oh putain, mais ça c'est n'importe quoi. Jouer à 7h du matin. Alors, s'il y a des gens qui écoutent cette radio, que ce soit au kiosque, la pépinière ou à la radio, je joue Le jour se lève encore à 7h du matin. Mais c'était logique. Le jour se lève encore, quoi. Donc, on a un directeur de théâtre encore pendant quelques mois qui est un peu fou et qui est capable de se dire, allez, soyons fous, jouons à 7h du matin. Je crois que moi, ça va changer des choses, mais c'est surtout pour le public. C'est surtout pour le public que ça va changer des choses parce qu'il faut qu'il fasse l'effort de venir voir le spectacle. C'est au Parc Galeron. Et aussi, ça change, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas manger et qu'au repas, tu manges le dessert avant de manger le plat de résistance. Tu te dis, c'est bizarre. J'ai pas fait les trucs dans le bon ordre. Le théâtre, c'est à 21h, tu vois. Le théâtre, c'est le soir ou en fin d'après-midi. Et là, le théâtre, à 7h du matin, ça, j'espère que ça va créer un trouble qui va faire qu'on aura une attention différente. Et puis, effectivement, à 7h du matin, le soleil est déjà un peu levé, mais la lumière n'est pas la même. Et j'espère que ça va nous mettre dans un état, une atmosphère un peu particulière. Et puis peut-être on va aller déjeuner ensuite, faire un petit déj en pensant au spectacle qu'on vient de voir. On le vivra pas souvent dans l'année quand même, c'est cool, quoi.
C'est la première fois que tu le joues à 7h du matin,
ce spectacle ? Ouais, non mais il y a que la passerelle pour avoir une idée de me faire jouer à 7h du matin. Non, je l'ai joué déjà bientôt 80 fois ce spectacle et c'est la première fois que je joue à 7h du matin. J'ai joué parfois très tard le soir, mais très tôt le matin à ce point-là, non, j'avoue. D'habitude le matin je pédale. Voilà, je fais du vélo puisque je suis en tournée vélo.
Du coup, on a vu que dans vos spectacles, donc dans ton spectacle, tu parles de l'électricité en partie. Et du coup, pourquoi ton thème il revient fréquemment dans ce spectacle ?
Ah là 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 là, l'électricité. En fait, moi, je suis d'une famille. Voilà, mon papa et ma maman étaient agents EDF. Mon grand-père était agent EDF. Mon arrière-grand-père était agent EDF. Et donc, comme j'ai changé de comment dire, j'ai pas fait agent EDF, quoi. Ah bon, donc, j'avais un peu peur que j'ai pas l'héritage, tu vois. Bon, il y a pas beaucoup d'héritage dans ma famille, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui m'a touché. En fait, EDF, EDF-GDF, c'était une. Je dis c'était parce que c'est une entreprise qui a beaucoup changé. C'était une sorte de famille. Et quand on était un fils d'agent, on dit un fils d'agent EDF, on allait dans des colonies de vacances, dans des centres de vacances, qui étaient une espèce de. Ouais, une famille dont les valeurs seraient l'émancipation humaine, une famille dont les valeurs seraient l'antiracisme, une famille dont les valeurs seraient la solidarité et la fraternité. Et donc j'ai grandi là-dedans. Et donc j'ai découvert le théâtre dans une colonie. Et donc je voulais remercier ma famille pour m'avoir appris toutes ces bonnes valeurs, quoi. Mais peut-être une dernière question, Lison.
Oui. On sait que vous jouez en salle et en rue. Est-ce important pour vous d'avoir un spectacle polyvalent ?
Ouais, ben en fait, c'est un peu ma question, c'est aussi la légèreté. On est dans un moment où on se pose tous des questions sur ce qu'on doit faire face à l'urgence climatique. Et du coup, les spectacles légers, ça me permet aussi de tourner en train, de tourner en vélo, de tourner différemment. Et puis, il n'y a pas de décor. Et donc là, ce qui est génial, c'est que ce spectacle-là, j'ai fait l'ouverture de saison au Théâtre du Briançonnet sur une grande scène avec mon copain Olivier Chamou, avec une belle création lumière. Et en même temps, là, je suis heureux de tourner dans des formes légères. Les choses ne s'opposent pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne touche pas les mêmes publics. C'est ce que disait un petit peu Philippe tout à l'heure, c'est que quand tu es en extérieur, tu touches un public que tu ne touches pas forcément en salle. Et moi, j'essaye de faire un théâtre populaire, donc c'est assez cohérent, je trouve, de jouer en extérieur.
Très bien. Et du coup, vous avez dit que vous étiez venu en vélo. Et quel pépin vous avez rencontré sur la route ?
Alors, le principe du vélo, c'est que tout est prévu et tout est imprévu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars en vélo, tout est hyper carré. Tout est très organisé pour pas se rater, mais il y a toujours un truc qui va pas. Par exemple, là, j'ai traversé un endroit qui s'appelle les Clus de Barles. C'est avant Seyne-les-Alpes, entre Digne et Seyne-les-Alpes. Et c'est un très bel endroit avec une toute petite route dans la montagne, dans des gorges. Et tout d'un coup, il y a un poids lourd qui m'a doublé. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait un poids lourd ici. Et en fait, le poids lourd, il est arrivé en face d'un tunnel. Mais comment vous expliquer le tunnel ? Il devait faire même pas 3 mètres de haut, et donc le poids lourd il faisait 4 mètres de haut, donc ça ne pouvait pas passer, et donc je me suis retrouvé coincé derrière le poids lourd, par exemple. Non, mais il m'est arrivé plein de trucs.
Est-ce que t'as eu des endroits de creux, coup de cœur aussi quand t'es sur ta route?
Ah, mais c'est magique, en fait, faire du vélo, c'est magique, parce que en fait on ressent les paysages et
tout finit par être beau.
Ouais, on finit toujours par y arriver. Et puis quand t'es dans les paysages, c'est un peu comme quand tu fais une rando, sauf que là tu peux voir plus de trucs dans une journée, mais tu découvres des paysages magnifiques. J'ai fait tout le tour de la région sud cette année, donc j'ai fait à l'automne, j'ai fait Briançon, Avignon, Toulon, et là j'arrive de 15 jours de tournée où j'ai fait Aubagne, Nice, Gap. Donc Gap, c'est mon terminus. Dimanche après le spectacle, je rentrerai à vélo à Vennes, chez moi. Mais je suis passé par exemple par l'Estérel, le Cap Estérel, tout ça. Alors par contre, j'ai une info à donner aux Gapensais et aux Hauts-Alpins.
On vous écoute.
Une info capitale. En fait, quand tu traverses le Var et les Alpes-Maritimes, tu découvres un truc incroyable. En fait, en France, il y a de l'argent. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire, c'est une info que parfois on oublie, mais il y a des gens qui ont de l'argent, mais de manière complètement démesurée. Avec des villas, avec des portails de 6 mètres de haut, des caméras de vidéosurveillance partout et des Tesla, des Porsche partout, que des Mercedes. Et j'ai passé toute ma journée sur la Côte d'Azur là à me dire, il faudrait bien partager les richesses, ça serait bien qu'on ait de l'argent pour les services publics, ça serait bien que,
pour voilà, le théâtre aussi.
Pour le théâtre éventuellement, qu'on soit pas là à galérer pour 1000 euros par-ci, voilà, avec des salaires, voilà. On a tous des potes qui galèrent et quand tu traverses les Alpes-Maritimes, bah, t'es un peu écœuré. Mais après, j'ai joué à Nice dans des lieux super, chez des lieux, des endroits militants super chaleureux, donc ça m'a remonté le moral. Mais il y a des fois où, ouais, on a quand même envie de changer le monde. Et en vélo, on voit le monde dans sa complexité. On voit plein de trucs super beaux et aussi des trucs où on se dit, bon, on pourrait peut-être un peu améliorer les choses.
Si tu veux aller jouer à Strasbourg, tu irais en vélo aussi ?
Ah, carrément. Pourquoi tu connais du monde à Strasbourg ?
Oui.
Ah ben voilà, moi je veux bien.
Là-bas.
C'est un de mes rêves, c'est de faire Vennes-Lille. Bon, Strasbourg, c'est pas tout à fait dans l'axe, mais je peux faire un détour, mais Vennes-Lille, ça se fait. Il y a que 1000 km, donc voilà. C'est...
Ça prend un peu de temps.
Ça prend un peu de temps, mais.
Mais en et vélo, bon. Faut prendre son temps.
Faut prendre son temps, voilà,
exactement.
Sinon c'est pas drôle.
On a toujours le temps.
Voilà, c'est ça. Ouais. À la radio, je suis pas sûr que ça soit le concept. Hein.
La radio, c'est très timé.
Ouais, la radio, c'est un peu plus timé que le vélo quand même.
Ouais.
Un peu plus.
Eh bien, merci beaucoup.
Bah, vous viendrez demain à 7h. Hein. Paul,
oui.
Paul, tu viens à 7h demain
oui.
matin.
Rassure-moi. Bien sûr.
Bon, c'est cool. C'est samedi et dimanche.
On sera là.
C'est gentil.
Peut-être pas les deux jours.
Ouais,
mais
ouais,
on sera là.
C'est gentil. Déjà, ça serait une bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous, merci en tout cas, beaucoup. Pour ces super questions.
Et
merci.
Maintenant, musique.
Yeah.
Cause it was always you. embarquer dans l'aventure tous d'abord sur Fréquence Mistral.
Bonjour, vous êtes toujours au micro de Tous d'abord et je suis en compagnie de Brice Lagenèbre, de le collectif Janine Machine, qui présente sur le festival le spectacle Le PD. Alors, qu'est-ce que vous diriez de vous prêter un petit exercice pour nos auditeurs et vous présenter en un aliment un spectacle qui n'est pas le vôtre et un morceau de musique?
Ok. Alors bonjour déjà. Bonjour. Attends, en un aliment?
Alors, ouais, un aliment.
Ça va prendre du temps.
Ouais, attends. C'est pas facile.
Attends, attends, c'est un pas aliment. Bon, je vais dire le chocolat.
Carrément.
Le spectacle?
Un spectacle, mais qui n'est pas le vôtre.
Ouais. Ouais. Je vais dire Apocalypse, de la compagnie Marzouk Machine.
Super, super spectacle.
Qui était présent au festival l'année dernière, je crois.
Il y a deux ans.
Ouais. Ouais. Et un morceau de musique. Merci. Ah, c'est pas facile, hein.
Non, je vais dire, je vais faire la fête à en crever.
Ok.
C'est de
très
qui?
Bien. C'est de qui?
Je sais plus.
Ah, et ben voilà. On cherchera.
Je vais faire la fête à en crever. Le lagon bleu. Mansfieldia.
Ok. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit speech rapide de votre spectacle?
Oui. Alors, le PD, c'est quoi? Le PD, c'est l'histoire des luttes homosexuelles en France, des années 60 à aujourd'hui, à travers le prisme de la Pride. Donc, c'est-à-dire, au moment où il n'y en avait pas, avant qu'elles arrivent, comment elles sont arrivées, et comment elles se sont transformées, et qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui.
Ok, très bien. Et alors, j'ai vu que ce spectacle était une nouvelle création, donc 2023, si ouais. Je ne dis pas de bêtises. Comment ça vous est venu maintenant? Et ça a été créé par un collectif, le collectif Janine Machine.
Oui.
Comment s'est passé le processus de création un peu?
Ok. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'un état de fait qui est que l'homosexualité est pas ou peu représentée dans l'espace public et dans les spectacles de création in situ, dans les spectacles de rue, quoi. Et que je me suis dit qu'il y avait une nécessité de parler de ça, et moi j'avais envie de mettre en jeu ce sujet-là pour moi dans ma vie intime, de le mettre au plateau et de venir le raconter dans l'espace public, à un endroit où la représentation homosexuelle et LGBTQIA+ de manière plus globale a besoin d'être visibilisée, et surtout son histoire a besoin d'être visibilisée, parce qu'il y a une histoire homosexuelle et qu'elle n'est pas assez montrée et que les gens ne connaissent pas, et que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va, et que si on la met pas en jeu, cette histoire là la communauté LGBTQIA+ se retrouve à un endroit de qu'est-ce qu'on fait maintenant sans assises. Et j'ai l'impression que c'est important de savoir, en tout cas les assises, elles se trouvent dans l'histoire. Et l'histoire telle qu'on la connaît avec un grand H, qui est celle des hommes, des conquérants, des territoires, des enjeux de pouvoir. En fait, notre histoire avec un grand H, la grande histoire homosexuelle, des luttes homosexuelles, ouais, s'inscrit dans la grande histoire et a des liens avec la grande histoire, et on ne la raconte pas. On raconte pas dans les cours d'histoire les années SIDA, par exemple. On raconte pas l'espoir qu'a suscité l'élection de François Mitterrand en 81. Bon, là, je vous parle à vous, je sais, vous êtes tous nés après les années 2000, mais en l'occurrence, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et du coup, l'idée, c'était de raconter ça.
Donc visibiliser l'histoire de la communauté LGBT.
Ouais, et rendre hommage aux pionnières et aux pionniers qui nous ont permis aujourd'hui d'être libres. Parce que c'est aussi important de raconter que de mettre à jour cette histoire-là, parce que effectivement c'est cette histoire et c'est ces pionniers et ces pionnières qui nous ont permis d'avoir des droits. Mais les droits, comme on le sait, ça se perd. Et que du coup on a besoin de mettre en jeu cette histoire-là dans l'espace public pour raconter aux gens que les PD, les lesbiennes et les queers ne viennent pas de nulle part.
Très bien.
Et que du coup, c'est pas un effet de mode, et que du coup, il n'y a pas d'idéologie LGBT comme voudrait nous le faire croire Madame Marion Maréchal Le Pen.
Très bien. Et alors, vous avez choisi d'en faire une déambulation, donc sur ce festival, ça se fait dans la rue Carnot.
Oui.
Et pourquoi avoir choisi la déambulation comme ça?
Eh ben, bah, ça paraissait assez évident. Moi, je fais du théâtre de rue depuis longtemps. Ouais. Ça fait 15 ans. L'histoire des luttes LGBT, elle se passe dans la rue. Les manifs LGBT, enfin en tout cas l'accession aux droits et le besoin de lutter. Et dans l'histoire LGBT, pour vous le faire rapidement, quand les Prides arrivent, elles arrivent aux États-Unis d'abord, en 69, et c'est une émeute qui va créer la Pride. C'est la commémoration de l'émeute qui va créer la Pride. Et du coup, ça se passe dehors. Les prides se passent dehors, les manifs se passent dehors, et puis c'est à l'extérieur que nos vies sont en danger, c'est à l'extérieur que se passent les agressions, c'est à l'extérieur que se passe la visibilisation, c'est à l'extérieur que, et du coup pour moi ça paraissait tout évident que ça se joue dehors et en déambulation. Et du coup, si tu veux, le principe de ce spectacle, c'est que à travers la déambulation, on va traverser l'espace comme on traverse le temps. Donc on commence dans les années 60 et on arrive aujourd'hui, et on rejoue des manifestations et des prides historiques. Donc le public devient tour à tour des manifestants et des manifestantes du MLF, du mouvement de libération des femmes, des manifestants et des manifestantes du phare, du front homosexuel d'action révolutionnaire, de plein de structures comme ça qui ont existé et d'assauts qui ont existé et qui ont permis qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les droits et la liberté qu'on a.
Une déambulation qui dure un peu plus de 2h30, un truc comme
ça. Non, 2h10, il faut pas faire peur aux gens.
Attention.
2h10. Mais je tiens quand même à le signaler, sur le papier, ça peut faire peur, mais la totalité des... Sur le papier, ça peut faire peur, hein, 2h10, je vous vois là-bas, mais en vrai, ça passe... La totalité des gens qui ont vu ce spectacle m'ont dit on n'a pas vu le temps passer. Voilà. Après, de dire ça de moi,
oui,
ce serait pas objectif, mais voilà.
Okay. Cette histoire, juste, tu l'as fait du prisme de l'histoire française ou tu la racontes aussi du prisme de l'histoire internationale ?
On est un peu obligé de partir des États-Unis parce que c'est un point de départ. Il pourrait y en avoir d'autres. Hein. L'histoire, on le sait bien, l'histoire est subjective, mais il y en a plein des points de départ. On a choisi celui-là parce que c'est le plus connu. Et du coup, qui se passe aux États-Unis, mais très vite on revient en France et on ne quitte plus la France pour raconter son histoire. Parce que, pareil, l'histoire des luttes LGBT, c'est tellement vaste comme sujet, on pourrait très bien parler des conditions de la communauté LGBTQIA+ dans le monde. On pourrait très bien parler, voilà, on a choisi ce prisme-là, nous, et du coup on raconte l'histoire des luttes LGBT en France, des années 60 au moment où elles sont arrivées, enfin de la fin des années 60 à aujourd'hui.
Ok. Alors, on imagine que c'est un spectacle qui a pu provoquer des réactions. Est-ce que vous pourriez nous raconter une réaction qui vous a ému? Ou qui vous a...
Ouais, y en a plein.
Ouais,
y en a plein. Ce qui est marrant, c'est que c'est un spectacle qui plaît à différentes générations. Mais comme c'est un spectacle historique, ça plaît beaucoup aux têtes blanches. Tu vois. Et surtout, moi, j'ai le souvenir. Enfin, oui. Ce qui m'émeut le plus, c'est quand j'ai des vieux PD et des vieilles lesbiennes qui viennent me voir à la fin du spectacle, émus, en larmes, qui me disent tu m'as raconté ma vie. Tu m'as raconté ma vie. Ce que tu viens de faire là, personne ne l'avait. Enfin, je ne l'avais jamais entendu. Et ça fait du bien de l'entendre. Merci de ça. Voilà, ça c'est une des réactions qui m'aime le plus. Ouais.
Et une réaction qui vous a interloqué un peu ?
Ouais, bah. Oui, il y a toujours des gens qui sont pas spécialement d'accord avec le fait qu'il y ait une déambulation qui passe devant chez eux et qu'en plus cette déambulation porte le nom de PD. Bon, voilà, il y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc il y a des gens qui. On n'a jamais subi d'agression, mais on a eu des réflexions. Je me souviens d'une réflexion particulière où on était au Blémard, un village en Ardèche, je crois que c'est en Ardèche, je suis pas sûr, d'une femme qui a hurlé de sa fenêtre, qui a hurlé le PD spectacle de merde, quand est-ce que tu crèves, voilà. Mais ça c'est voilà, c'est une réaction comme ça. Mais finalement c'est marrant parce que c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais ça m'a fait peur pendant 5 minutes et puis au bout de 5 minutes j'ai complètement switché. On était convaincus de la nécessité de faire ce spectacle à cet endroit-là à cause de son intervention, cette femme, tu vois. Donc voilà, c'était ça.
Et alors dernière petite question, qu'est-ce que vous diriez à votre jeune vous?
Ouh là là.
S'il venait vous voir à la fin d'un spectacle et qu'il vous disait qu'il a particulièrement aimé, qu'est-ce que vous diriez?
Bah, ce qui est certain, c'est que si moi j'avais vu ce spectacle je sais pas, t'as quel âge ?
Moi j'ai 17 ans.
Voilà, si j'avais vu ce spectacle à 17 ans, ça aurait changé ma vie. C'est évident. Alors après, qu'est-ce que le jeune Brice de 17 ans dirait au Brice de 38 ans aujourd'hui ? Je sais pas, il dirait oh, ah, trop bien. Il dirait ça.
Déjà.
Ouais. Ça, non, mais il faut raconter. Enfin, quand j'avais 20 ans, bon, je m'étale un peu, mais on a 10 minutes, on va dire. quand j'avais 20 ans, j'étais au conservatoire à Bordeaux et le directeur du conservatoire, je me sentais pas bien à Bordeaux, enfin je me sentais pas à ma place dans le conservatoire et le directeur m'a dit c'est quoi ton rêve? Et moi je lui ai dit bah moi mon rêve c'est avoir un camion, avoir les copains et les copines dans le camion, les costumes, le décor dans le camion et partir sur la route de France. Et c'est concrètement ce que je fais aujourd'hui. Et c'est concrètement ce que je fais depuis 15 ans. Donc en vrai, le gamin de 20 ans qui avait ce rêve-là, qui voit aujourd'hui Brice là, je pense qu'il dirait ça, il dirait trop cool.
Ça, et ouais. Ça c'est beau. Franchement, ça c'est cool.
Ouais, ça c'est trop bien.
Eh bien, oui, pardon.
Ouais, non, en fait, je me rends compte que t'as posé une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est comment s'est créé le travail en collectif, le oui, processus de travail en collectif. Parce qu'effectivement, il faut le dire, c'est un collectif, donc ça veut dire qu'on est plusieurs, il y a un grand groupe, et dans ce grand groupe, il y a quasiment que des meufs. On est trois à l'écriture. Il y a Sarah qui a metteuse en scène d'Apocalypse qui a mis en scène ce spectacle là assistée de Marlène qui est une des comédiennes d'Apocalypse et on a écrit ce spectacle tous les trois. Il y a aussi Esther Elias qui est à la diffusion et à la production du spectacle. Il y a aussi Céline Bertin qui est là-bas qui fait la régie du spectacle, qui a construit le char. Et qui est aussi une partenaire de jeu. Et donc du coup, si tu veux, on est une grosse équipe. Et on est aussi en travail avec une boîte de production qui fait de la production déléguée qui s'appelle J'aime beaucoup ce que vous faites. Et là, pour le coup, c'est deux hommes. Mais sinon, sur le process d'écriture et de création du spectacle, c'est que des femmes. Et comment ça s'est écrit? Ben, ça s'est écrit comme s'écrivent les créations de la compagnie Marzouk Machine. C'est-à-dire que c'est de l'aller-retour au plateau. On appelle ça de l'écriture plateau. C'est-à-dire qu'on fait des impros. Moi, je suis arrivé, j'avais fait deux ans de recherche sur l'histoire LGBT. Enfin, sur l'histoire homosexuelle.
Ok.
J'avais fait deux ans de recherche et je suis arrivé avec ces recherches et elles m'ont balancé au plateau. Elles m'ont dit bon bah tu vas faire une impro, si elle dure 4 heures elle dure 4 heures, mais tu nous racontes tout ce que tu sais de l'histoire homosexuelle. Donc, voilà. Et elles se sont imprégnées du sujet petit à petit et c'est comme ça qu'en faisant des allers-retours au plateau qu'on a finalement écrit le spectacle qu'on raconte aujourd'hui.
Ça c'est du sacré processus d'écriture.
Ouais.
Et bien merci beaucoup Brice.
Avec un grand plaisir.
On a très hâte de vous retrouver du coup rue Carnot.
Ouais.
Et puis voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous rappeler juste les heures où ton spectacle va se jouer, les heures et les jours?
Alors, je suis pas sûr de les connaître, mais attends, si. On joue à 18h. On joue à 18h. 18h tout pile, je crois. Attends, c'est écrit là. 18h30 samedi et 15h30 dimanche. Voilà, au 27 de la rue Carnot.
Parfait, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Et tout de suite, votre moment musique.
Bonjour, alors nous sommes en compagnie de Mademoiselle Rose et Jacques-Henri. Alors dites-nous, vous êtes bénévole sur ce festival, mais vous êtes vous avez une mission un petit peu spéciale, à ce qu'on m'a dit. Est-ce vrai?
Oui, ben bonjour.
Oui, bonjour jeune homme, bonjour.
Bonjour.
Alors, la mission, ben, c'est Monsieur Mariano qui nous a demandé d'être présent avec Jacques-Henri.
Lui-même.
Voilà, pour, on va dire, pour donner vie au temps mort entre les spectacles.
Monsieur Mariano, Louis Mariano?
Ah non.
Non, le directeur.
Non, non, le directeur de la passerelle,
Monsieur
voyons.
Mariano.
Philippe Mariano.
Philippe Mariano.
Ah ben voilà, voilà, ben, c'est bien de lui.
Ariano. C'est presque pareil.
Voilà.
Ben, sacré rôle, dites-nous. Oui. Alors, comment vous comptez faire ça?
Alors.
Ben, de la rigueur. Hein.
De la rigueur.
Rigueur, discipline.
Oui.
Voilà, seront au rendez-vous. Et puis, on va essayer de faire avec ce qui se passe, vous savez. En fait, on va faire avec ce que les gens nous donnent.
Wow.
Voilà. C'est-à-dire que si on se tient à carreau, ça devrait bien se passer. Et puis s'il y a des problèmes, eh ben, on va faire avec.
Voilà.
Hein, on va faire en sorte que ça s'arrange et que tout le monde se sente bien, autant pour le public que pour les organisateurs.
Mais ça va bien se passer, vous allez voir, ça va être
ça va très bien se passer.
Voilà.
Oui.
Vous allez aider sur le spectacle, alors, à mettre en place la scène, à accueillir le public.
Exactement, allez... jeune fille.
Accueil du public, oui, c'est ça.
Hein, c'est ça,
Jacques. En tant que bénévole.
Voilà.
Tout à fait, comme vous.
Voilà, on sera là pour, comment dire, pour essayer d'alléger un peu ces temps d'attente, parce qu'on s'est rendu compte avec les éditions précédentes que les gens ne savent plus attendre. Donc voilà, on va essayer de les aider.
Donc c'est pas la première fois que vous êtes sur ce festival?
Alors moi non, moi je suis là tous les ans, je suis une fervente admiratrice de Tous Dehors et je suis là depuis la première édition en 2012.
Impressionnant, ben, impressionnant.
Et alors, bah, quel est le comportement dans les files d'attente qui vous gêne?
Bon, bah,
ça c'est une bonne question, hein, ça dit donc. Alors bon bah les y a toutes sortes de comportements, les gens qui doublent.
Oh, les gens qui doublent.
Les gens qui font pff, c'est long. Il y a les gens qui regardent leur portable. Ah ça c'est agaçant. Et puis on s'est aperçu aussi que les jeunes ne se parlent pas entre eux. Vous avez vu, ils ne se parlent pas entre eux, ils s'ignorent. Et quoi d'autre, Rose?
Bah alors, vous nous demandez ce qui nous gêne, mais moi, rien ne me gêne particulièrement, mais je trouve que c'est toute une ambiance, en fait. Hein, c'est toute une atmosphère qu'on aurait envie de rendre joyeuse, voyez?
Ah oui, de la joie.
Voilà, un peu de joie.
Et le festival, c'est long quand même, c'est 3 jours quasiment, avec des shifts, ça commence à 7h du matin jusque tard le soir.
Mais oui.
Vous êtes là sur toute la durée du festival, toute la journée?
Mais bien sûr que non. Mais
ah, vous rassurez.
Eh bien oui, non, on dort, on mange en fait.
Ah,
voilà, hein, voilà. Comme
bonne nouvelle.
Oui. Mais on sera là où on nous attend pas. C'est promis.
Et alors, on vous a vu hier jouer un peu de musique. C'est dans vos habitudes, surtout vous, Jacques-Henri.
Oui, alors moi, oui, voilà. Alors, moi, je suis passionné de musique. Hein. Je suis à la fanfare municipale, où je suis deuxième guitare.
Oui.
Oui.
Une fierté locale.
C'est vrai que c'est bien. Voilà. Comme j'habite Romet, c'est assez proche. Et voilà. Et j'aime beaucoup la musique. Et c'est un peu par là qu'on s'est rencontrés avec Rose.
Voilà.
C'est parce que nous sommes fans de Savina.
Savina.
Oui.
Oui. Est-ce que vous voulez on va leur chanter une petite chanson aux jeunes parce qu'ils connaissent pas.
Vous connaissez pas. Savina, vous voulez qu'on vous chante une chanson?
Avec plaisir.
C'est un pilier de la chanson française. Voilà, Brassens, Brel
et Savina.
Vous avez amené la guitare, j'espère.
Alors, oui, il va chercher sa petite guitare.
C'est même un ukulélé, on dirait.
Une petite guitare.
Quel affront. J'ai peut-être fait un affront là.
Continuez à parler entre vous.
Oui.
Oui, l'accordage très important.
Alors, je me demandais un truc, les jeunes. Est-ce que pour faire toutes ces interviews, vous avez un peu travaillé votre diction? Vous vous êtes échauffés? Là, j'ai un petit exercice pour vous. Vous allez répéter « Juché sur sa chèvre, sergent chef Serge chasse l'ours ». À vous.
« Juché sur sa chaise, sergent chef Serge chasse l'ours ». T'as oublié le Serge.
Bon, Oui, c'était un peu...
C'était juché sur sa chèvre.
Juché sur sa chèvre, exactement, jeune fille.
Juché sur sa chèvre. Pardon, excusez-moi.
Non, ben voilà, ça se travaille, hein, c'est comme tout.
Ah, ça s'accorde.
Jacques-Henri
est en train de s'accorder.
Donc un morceau de Savina, ça s'appelle comment?
Oui, alors ça s'appelle...
Il y a.
C'est une chanson d'amour.
Ah oui, alors les jeunes, ne vous offusquez pas, je vous préviens, j'ai un problème, j'ai le même que Céline Dion, j'ai des symptômes, je n'ai pas la même voix quand je parle et quand je chante. Ah, voilà.
Le syndrome Céline Dion.
Voilà, alors je suis totalement fan d'elle et ça me touche particulièrement d'avoir les mêmes soucis.
Je me rapproche comme ça, d'accord? Vous êtes prête?
Oui.
Il y a des hauts.
Il y a des bas.
Il y a des mots.
Et des débats.
Il y a le banc
et le chaland.
Il y a le vote blanc,
le président.
Il y a les fauves et puis les gnous.
Il y a les chauves et puis les poux.
Et il y a toi et il y a moi. Il y a notre amour et nos je t'aime. Et il y a toi et il y a moi. Y'a tous les autres, et moi qui ne vois que toi.
Y'a les affamés,
y'a les obèses,
y'a les pipelettes,
et ceux qui se taisent.
Y'a le renard,
et puis les poules,
y'a les stressés,
et puis les cools.
Il y a la rouille, le dégrippant,
y'a le jambon,
et le ramadan. Et il y a toi, et il y a moi. Il y a notre amour et nos je t'aime. Et il y a toi et il y a moi. Il y a tous les autres et moi qui ne vois que toi.
Il y a l'enfer
et puis le ciel.
Il y a la cheminée,
le Père Noël. Il
y a le toléré,
le défendu.
Il y a l'amant
et le cocu.
Il y a les berges et puis les ponts.
Il y a les verges et puis les cons. Et il y a toi et il y a moi. Il y a notre amour et nos je t'aime. Et il y a toi et il y a moi. Il y a tous les autres et moi qui ne vois que toi.
Il y a le rafale
et le planeur.
Il y a la tondeuse
et puis les fleurs.
Il y a la tristesse
et le bonheur.
La mère de Bambi
et le chasseur.
Y a le mendiant, le milliardaire. Y a Dix Lex Lick. Y a Dix Lex Lick.
Et la grammaire.
Et il y a toi.
Et il y a toi.
Y a moi.
Et il y a moi. Y a notre amour. Et nous, je t'aime. Et il y a toi.
Y a tous les autres et moi qui ne vois que toi. Et il y a toi, et il y a toi, et il y a moi, et il y a moi. Y a notre amour et nos je t'aime. Et il y a toi, et il y a moi. Y a tous les autres et moi qui ne vois que toi. Y a tous les autres et moi qui n'aime que toi.
Magnifique, oh là là.
Bon ben voilà, hein. Bon les jeunes, c'est pas qu'on a que ça à faire, mais il faut qu'on file, parce qu'on aimerait bien aller voir un spectacle.
Oh, lequel?
On va aller voir Tempête.
Ah, Tempête, okay.
Mais oui, voilà.
Ok, ok.
Est-ce que vous-même, vous avez le temps d'aller voir un peu les spectacles?
Après.
On devrait s'en sortir, ouais.
En tant que bénévole, quand on est des spectacles, on les voit, donc c'est bien pour nous.
D'accord, c'est bien. On va se recroiser, c'est très bien. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, si vous avez la moindre difficulté sur un temps d'attente, hein, un acte d'incivisme, de désobéissance, ou quelqu'un qui s'ennuierait, même si je doute que ça puisse arriver, n'hésitez pas, appelez-nous.
On a le droit de dénoncer?
Mais bien sûr, la délation est à la mode.
Oui,
bonne vieille délation.
Hein. On fera appel à vous, on fera appel à vous.
Oui. J'ai envie de dire que c'est même mieux que les caméras, au moins c'est eco-friendly, quoi.
Ah bah oui, tout
voilà.
À fait.
Voilà. Allez, bon festival à tous, puis à très
bon
bientôt.
Bon spectacle à vous.
Merci beaucoup.
Bravo pour ce que vous faites, les ambassadeurs. C'est
merci.
Vous.
Vous
merci aussi. À vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. La musique.
Non. Et tout de suite, nous avions aussi, lors de la soirée VIP, interrogé les mécènes, car les mécènes aident beaucoup le théâtre La Passerelle. Voici donc un extrait de nos interviews.
Bonjour, je suis Rémi Favre de l'entreprise Thermo La Calpe et je suis un mécène des cibles.
Très bien. Et alors, dites-nous, en quoi ça consiste être un mécène des cibles ?
Être un mécène, à la base, c'est donner de l'argent pour faire avancer ce festival, continuer à l'agrandir et à avancer tous ensemble.
Comment ça s'est passé pour vous de devenir mécène des cibles ?
Bah, c'était un déclic de venir lors de ce festival, de voir des rires, des pleurs, de voir que tout le monde s'amusait et vouloir participer et pousser un petit peu ça vers l'avant. Ça m'a donné envie de participer et de donner un petit peu d'argent pour ça.
Et alors, est-ce que vous avez un petit spectacle que vous nous recommandez ?
Moi, je vous recommande le spectacle Molière. C'est pas du tout classique, on pourrait croire avec un nom comme ça, mais justement, ça déménage. C'est un spectacle qu'on a vu à Chalon l'année dernière avec d'autres mécènes. Et vraiment, on vous le recommande vivement.
En parlant du Festival de Chalon, on a appris que vous participez à l'action dans l'impôt d'un programmateur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est et comment ça marche ?
Bien sûr, avec plaisir. À l'initiative de Philippe, il y a quelques années, il a voulu nous montrer un petit peu quel était son travail. Donc il nous a invités à le suivre lors de certains festivals. Donc certains sont à Aurillac, d'autres à Chalon, qui sont les deux références des festivals des arts de rue. Là, on voit le maximum de spectacles, on échange, on discute, on voit ce qui plaît, ce qui plaît pas. Beaucoup de diversité, assez peu de consensus, mais il y en a qui font consensus, dont Molière.
Merci beaucoup.
Bonsoir, Laurent Pellat, responsable dirigeant de la boulangerie Lopinter à Gap et mécène depuis environ 8-9 ans. Voilà.
Et alors, en quoi ça consiste pour vous, dans votre cas, d'être mécène ?
Mécène, en fait, là, dans notre cadre, enfin, c'est un soutien financier. Et en fait, je souhaitais que, au niveau du fonctionnement de la boulangerie, on sorte un peu justement du cadre purement économique et de rentabilité d'une entreprise, parce que justement les bénéfices puissent servir à autre chose que de continuer à faire tourner la boutique. Et comme j'ai un rapport à l'artistique de façon générale, enfin un intérêt pour l'artistique, je me suis dit c'était un moyen de soutenir justement de façon locale justement les arts sous différentes formes, et en plus d'avoir apporter quelque chose en plus aussi à mes concitoyens, à savoir accès à la culture justement et aux arts sous toutes ses formes.
Alors je suis Vincent Écosse et je suis le gérant du Fournil des Vieux Garçons à Gap.
Vous êtes mécène, est-ce que vous pourrez nous dire qu'est-ce que vous avez pu faire à soutenir financièrement La Passerelle ?
Alors nous, on a fourni, enfin on n'a pas financièrement, mais on fournit en fin de compte des matières premières pour le festival. Donc à savoir du pain, des viennoiseries, de la pâte à pizza, enfin plein de choses comme ça qu'on sait faire et qu'on fournit gracieusement au festival.
Quelle est votre petite recommandation pour ce festival ?
Déjà, on va commencer par Faille, qui passera déjà tous les soirs, je crois. Donc nous, on va commencer par ça. Faille Opus 2.
l'aventure Tous à bord avec RCF Alpes-Provence.
Bonjour, je suis en compagnie de Philippe de la compagnie Le Chafou qui présente à cette édition de Festival Tous de dehors Créatures.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pourrez vous présenter en un aliment, une musique et un spectacle qui n'est pas le vôtre?
Ah là là, un élément, l'eau, une musique...
C'est compliqué, hein.
Ah, c'est compliqué, là.
En plus, c'était un aliment.
C'est un aliment.
Un aliment.
Oh là là, pardon, j'avais compris un élément. C'est ça.
Mais l'eau, c'est très bien.
Bon, bah, voilà, pour l'eau, d'accord. Alors, une musique Oxygène de Jean-Michel Jarre, par exemple. Voilà. Et puis, la troisième question, d'accord. C'est...
Un spectacle qui n'est pas le vôtre.
Qui vous décrit ? Tears de Johan Le Guilherme. C'est du cirque contemporain.
D'accord.
Voilà, pour préciser.
Est-ce que vous pourrez vous présenter votre spectacle en un petit speech rapide ?
Un petit speech rapide. Alors, Créature, c'est l'histoire d'un adulte qui vivrait dans un monde futur où les animaux auraient disparu. Et avec ses souvenirs d'enfant, il s'est reconstitué un cabinet de curiosité, une ménagerie. C'est-à-dire qu'il a fabriqué ses animaux en fonction de ses souvenirs. Mais avec les souvenirs, bah des fois les souvenirs se mélangent. Donc il y a des animaux qui sont plus ou moins réels et puis des animaux qui sont plus imaginaires.
D'accord. Donc c'est un spectacle muet, qui est un peu le seul spectacle muet un peu dans le festival. Alors pourquoi ce choix et est-ce que c'est difficile?
Parce que je retiens pas les textes. Non, pas du tout. Non, je travaille sur des spectacles qui n'ont pas de parole parce que c'est pour toucher un public très large,
c'est ça,
de jeunes enfants, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais finalement, ça marche aussi avec les adultes parce que le spectacle est monté comme une suite de petites attractions. C'est un peu comme un spectacle où il n'y a pas une narration longue, ce qui fait que des fois on perd les enfants ou les adultes parce qu'il y a une histoire qui se raconte. Et donc c'est une suite, à chaque fois c'est un animal nouveau qui arrive, que je sors, que je présente. Donc c'est vraiment monté de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de texte non plus. Et puis, voilà.
Et donc, bah, vous sortez des animaux, mais ce sont des marionnettes. Donc, des marionnettes que vous contrôlez ou des mitaines
Alors, en marionnettes, alors, il y a plusieurs techniques de marionnettes. Alors, après, moi, les marionnettes que je travaille, c'est plutôt en fonction des animaux. C'est-à-dire de redonner une réalité, un réalisme dans le mouvement des animaux. Si les gens voient un animal, il va bouger d'une certaine manière. Alors, il y en a qui sont plus imaginaires, qui font des trucs un peu impossibles. Mais je vais pas dévoiler tout le spectacle. Mais il y a des animaux qui ont besoin d'avoir une... C'est-à-dire, quand on travaille la marionnette, on cherche à obtenir un certain type de mouvement. Donc, la partie la plus longue, c'est de pouvoir travailler avec la marionnette quand on la construit et qu'elle réagisse au mouvement qu'on a envie de faire. Parce que des fois, on a beau imaginer quelque chose, ça marche pas du tout, ça vit pas. Une marionnette, il faut la rendre vivante.
Et donc, bah, vous les faites vous-même? Comment ça marche?
Alors, je construis moi-même mes marionnettes. Alors, il y a une autre porte d'entrée sur ce spectacle, c'est que je construis moi-même mes marionnettes, mon décor, que ce soit de la couture, de la soudure, etc. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer l'autre slogan du spectacle, c'est on peut fabriquer ses jouets, et quand on les fabrique, et qu'ils tombent en panne, on peut les réparer. C'est aussi l'autre manière de parler du spectacle. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'avec des... Je n'utilise que des matériaux de récupération. Et c'est de montrer qu'avec des matériaux simples, on peut créer, imaginer, rêver, raconter des histoires. Ça, c'est l'autre porte d'entrée, on va dire, du spectacle.
Ah, c'est fou. Et donc, vous travaillez seul? Vous n'avez pas d'équipe? Si vous créez...
Ah, bah, les autres, ils ne voulaient plus venir avec moi, donc je travaille seul. Non, c'est parce que là, c'est un projet un peu personnel. Je suis parti là-dessus, et puis de fil en aiguille, comme je construis... et que je conçois mon décor et mon histoire, puis en plus je compose aussi mes musiques, donc c'est un projet complet. Et puis ça m'intéressait parce que j'ai fait des tournées de rue avec des grosses équipes de 18-20 personnes sur des gros projets, et puis ça m'intéressait de partir tout seul avec ce spectacle.
Tenter l'aventure.
Voilà.
Et donc ça parle aussi de la capacité à créer, à imaginer et à jouer. Donc pourquoi ce thème?
Bah parce que, alors pour moi, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est le public des enfants, parce que c'est les adultes de demain. Et puis c'est de dire que il faut continuer à croire, à créer, à imaginer, à être curieux, et puis de prendre des bouts de papier, des bouts de carton, des bouts de tissu, essayer de faire des choses, se tromper, recommencer, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est la pratique manuelle.
Alors
un peu.
Pas passer les journées sur les écrans à se...
Voilà, c'est ça, il y a ce côté-là, puis il y a le côté aussi, on peut se créer des histoires, et puis rêver, imaginer, et puis les raconter. C'est surtout ça aussi qui est derrière.
Le monde merveilleux de l'imagination.
C'est tout un chacun de l'imaginaire, et après, il faut s'en servir, et puis on a le droit de se tromper, de recommencer, et c'est ce qu'il faut.
Donc en soi, votre spectacle est un peu éducatif aussi?
Ouais, j'ai trop travaillé dans l'animation, ça se ressent, je vois bien. Oui, alors oui, derrière il y a ça aussi. Il y a un spectacle, mais derrière il y a une conviction de pourquoi j'ai envie de montrer aussi ce type de spectacle.
D'accord. Et enfin, dernière question, que diriez-vous à vous petit, à vous enfant, si vous vous voyez?
À vous petit?
À toi petit.
Ah?
Qu'est-ce que tu te dirais à toi petit?
À moi petit? Wow. Bah, je commençais déjà à démonter des jouets et tout ça, donc je me dirais continue. T'étais sur la bonne voie.
Eh bien, merci.
Merci.
Merci de votre temps. Et on enchaîne. Et on enchaîne avec une interview de Ken, le propriétaire de Ludambule, qui a.
La loupiote.
Excusez-moi.
La loupiote.
Qui on a interviewé hier au à soirée VIP et qui organise un festival de BD.
Bonjour, je suis Ken, libraire à la librairie La Loupiote. On participe au Festival Tous Dehors cette année via un festival de BD. En fait, la librairie et s'est proposé, enfin ça fait longtemps que, en tant que lecteur de bande dessinée, j'espérais monter un petit festival pour promouvoir un peu la BD indépendante et voilà, qui est un vivier de talents et de créations inédits au monde. C'est unique au monde. Donc voilà, l'idée était venue de bénéficier de l'affluence en fait à Gap du festival où il y a 20 000 personnes, je crois, qui circulent à ce temps-là. Et en parlant avec Philippe Ariagno, là, le directeur du théâtre, lui a tout de suite vu l'idée de Transversal, l'idée de mener ça en lien avec le festival. On a donc invité trois auteurices, Alexandre Géraudy, Marie Boisson et Grégoire Carlet, qui nous rejoindra demain pour des séances de dédicace, comme savent le faire les auteurs de BD. Et qui le reste du temps en fait profiteront du festival eux-mêmes en tant que spectateurs pour que la création, la créativité des artistes de rue alimente la leur. Et l'idée serait d'aboutir à l'édition d'un fanzine qui se retrouvera au kiosque, sur le comptoir du kiosque samedi soir, avec la vision de ces auteurs qui ont un talent de dessinateur, de narrateur. C'est incroyable pour voilà, relater un peu ce qui s'est passé dans les rues les deux jours précédents.
Eh bien, merci beaucoup et on a hâte de lire ce fanzine.
Alors justement, mais qu'est-ce que c'est qu'un fanzine et d'où ça vient?
Alors un fanzine, à la base, ça vient de la culture indé musicale. C'est la contraction fanzine des mots fanatique et magazine. C'était les fans de musique, en gros, qui étaient frustrés par la presse mainstream, qui parlait pas des groupes qu'ils aimaient ou qui en parlaient pas comme ils aimeraient. Comme ils auraient voulu qu'on en parle et qu'on décidait de prendre les choses en main et de faire leur propre magazine et de les distribuer eux-mêmes. Et par extension, le monde de la bande dessinée s'est approprié le fanzine et il existe maintenant une multitude de fanzines de bande dessinée. Et je pense que ça existe dans plein d'autres domaines. Voilà, c'est ça un fanzine.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, expliquer quel sera votre rôle et peut-être quel livre présenterez-vous ou quel livre au pluriel?
Bonjour, moi c'est Alexandre Géraudy, je suis auteur de bande dessinée, j'ai édité un livre aux éditions Misma qui s'appelle Une journée avec moi, et c'est ce livre-là que je vais dédicacer à la loupiote demain et après-demain.
Bonjour, moi je m'appelle Marie Boisson, j'ai sorti une bande dessinée en novembre qui s'appelle Bianca et la forêt des parents égarés, et c'est cette bande dessinée que je vais dédicacer à la loupiote.
l'émission des ambassadeurs du théâtre,
en direct et en public au kiosque de la Pépinière,
18h30 à 20h.
Bonjour, vous êtes toujours sur Tous à bord et nous sommes en compagnie de Baptiste, Charlotte et Thaïs de la compagnie Les Urbains Digènes qui présentent le spectacle Chantier sur le festival. Je vais laisser la parole à Paul Elison pour l'interview.
Bonjour, moi c'est Paul.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous décrire en un aliment, une musique et un spectacle qui n'est pas le vôtre?
Un aliment,
tu une parles musique. Des urbains indigènes, ouais. En général.
Ouais. Alors, un aliment, je vais faire au plus rapide, au plus simple, comme on vient de Franche-Comté, du Jura, je dirais le comté. Voilà.
Oui.
Une musique, je laisse Charlotte y répondre.
Les cloches là de ACDC.
Ouais, ACDC, c'est Hell's Bells.
Hell's Bells, voilà. Ouais.
Et puis le troisième c'était?
C'était un spectacle qui n'est pas le vôtre.
Un spectacle qui n'est pas le nôtre, je dirais. Vas-y Thaïs, oui.
Un spectacle qui n'est pas nôtre, mais qui nous ressemble. Un spectacle du théâtre groupe.
Oui, j'aurais dit pareil.
Ok, lequel?
La Jurassienne de
la
réparation.
La Jurassienne de réparation, ouais.
Merci.
Est-ce que vous pourrez nous faire un petit speech pour nous présenter votre spectacle?
Ok, alors, Chantier... Qu'est-ce que c'était?
C'est...
Ah, pardon, c'est un truc qui est à côté de nous, c'est ça, là?
Oui, c'est le parc.
Faut pas qu'on y fasse attention.
Ok.
Donc, décrire notre spectacle en quelques mots. Chantier, c'est la rencontre entre une association qui s'appelle Toi et Nous, qui prône le faire ensemble, en tout cas la citoyenneté moderne, et une entreprise de charpentiers. Et en fait, c'est l'association qui a pour projet d'élever une structure qui s'appelle le Préau de tous les possibles pour recréer du lien social. Et pour élever cette structure, cette association a fait appel à une entreprise locale de charpente. Et le spectacle met un petit peu en scène et en spectacle leur collaboration.
Merci.
Voilà. Et tout ça pour dire que la collaboration, c'est faire avec des gens dissonants. Parce que forcément, il y a des frictions entre ces deux entités qui sont l'association et puis l'entreprise.
Ok. Et qu'est-ce que vous diriez à votre vous, enfant, petit?
Je laisse répondre Charlotte ou Thaïs pendant que je réfléchis.
Je dirais, on s'amuse bien encore. C'est cool.
Ah ça c'est pas mal ça. C'est comment? Je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est qu'est-ce que je dirais à mon enfant, c'est ça, hein? À mon moi plus petit.
Oui.
Je dirais que oh là là, c'est incroyable. T'as réussi à faire un métier où tu dis, où les adultes te disent, je vais jouer, je vais encore aller jouer. Et ça c'est super bien. C'est pas de moi. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais je trouve que j'ai trouvé ça intéressant.
Très bien.
Pourquoi avez-vous choisi la tournée du coq comme sous-titre de votre spectacle?
Alors la tournée du coq, c'est en référence à une tradition chez les charpentiers qui consiste à, quand on a fini l'édification d'un bâtiment, Baptiste tu me corriges hein, si jamais je dis n'importe quoi, c'est de se promener dans le village avec le coq, enfin qui va être mis sur le clocher de l'église. Enfin, le bâtiment, c'est pas n'importe lequel, c'est l'église. Et donc, on traverse le village en se baladant avec le coq et en buvant des coups un peu à droite à gauche pour célébrer l'édification du bâtiment.
C'est un peu... Pardon, Thaïs.
J'allais dire, c'est pour fêter la fin du chantier.
Exactement, c'est ça. C'était un peu comme une procession traditionnelle, mais ça fait il y a longtemps. Il y a longtemps que ça n'existe plus trop. Les charpentiers qui construisaient les églises, c'est ça, et était invité par tous les villageois à une grande procession, une grande fête. Et c'était souvent le petit stagiaire, le petit acrobate, le petit lapin même. Dans les compagnons, celui qui court partout, qui passe les outils, c'est le lapin. Et c'est souvent lui qu'on emmenait tout au-dessus du clocher pour mettre le coq. Voilà.
Ok. Pourquoi votre compagnie s'appelle les Urbains Indigènes?
Alors, les Urbains Indigènes, ça vient de, ça vient d'une compagnie et même d'un monsieur qui s'appelle Christophe Châtelain, qui est directeur artistique de la compagnie Pudding Théâtre. C'est eux qui nous ont mis un petit peu le pied à l'étrier, qui nous ont mis dans la rue, qui nous ont fait faire les premières acrobaties, nos premiers spectacles dans la rue. Et je crois que Christophe, il avait fait un plan, il avait fait un spectacle éphémère pour une ville qui s'appelait Les Urbains Indigènes des Villes. Et quand on a créé notre premier spectacle en 2005, Christophe nous a passé ce mot en disant que ça nous correspondait assez bien à toute l'équipe d'acrobates. Et on a gardé le mot urbain indigène depuis ce temps-là, depuis 2005.
Très bien.
Est-ce que vous pensez que le citoyen de nos jours peut encore collaborer avec des inconnus?
Bah, il faut le souhaiter. Enfin, je l'espère en tout cas. Sans forcément que ça soit évident, mais ça nécessite du dialogue, de la compréhension, de la bienveillance. Mais il faut le souhaiter, je pense.
J'ai pas entendu la fin de la question, moi. Donc j'écoute et je dis oui, c'est bien ce qu'elle dit.
Moi, je pense que oui, tout comme Charlotte, il faut le souhaiter. Et j'ai l'impression que il y a comme un cadre où il y a comme des règles communes à avoir. C'est comme si... comme si la collaboration devait passer par des fois et bien souvent des compromis. Certains compromis. Alors on met chacun a sa définition du mot compromis, mais il y a comme un degré commun à trouver, et puis un degré de compromis commun à trouver en fonction des règles du cadre qu'on s'est fixé.
Et moi je dirais que tant qu'on est curieux de l'autre, et que du coup on arrive à essayer de le comprendre, on peut collaborer.
D'accord. Pour vous, quels sont les intérêts du travail manuel pour la communauté?
Alors, pour l'intérêt de la communauté. Alors, dans le spectacle, on parle beaucoup de la transmission de savoir-faire. Et en fait, quand on a fait des recherches, quand on a commencé à bosser sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de travail. Il y a plein de sortes de travail. Et en tout cas, le travail de la charpente, il y a quelque chose de manuel, il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre, qui fait que quand on travaille, on façonne un produit, on façonne un matériau, et à la fin de sa journée, on peut voir ce qu'on a fait. Il y a comme quelque chose de...
concret.
D'assez concret. Et pour l'intérêt de la communauté, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a besoin, pour beaucoup, de concret. Il y a beaucoup de bullshit jobs. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais pareil. Le bullshit job, c'est les gens, quand tu dis, tu fais quoi dans la vie? Et puis les gens, ils te disent un espèce de truc team building, je ne sais pas quoi, avec des anglicismes. Et en fait, on comprend pas vraiment ce qu'il fait, donc voilà, pour l'intérêt de la communauté, je sais plus quelle était la question, mais en tout cas la transmission de savoir-faire, c'est intéressant, et le faire, faire l'œuvre, faire du concret. Voilà, peut-être oui. Je dirais que oui.
Bon, et bien merci. Cette interview va terminer notre émission. Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Grand merci à la Passerelle de nous avoir créé ce projet. Merci à RCF, à RAM05, à Fréquence Mistral d'avoir diffusé. Merci à Vincent qui nous a coachés, nous les ambassadeurs. Merci à la technique, merci aux autres ambassadeurs. Et voilà, nous clôturons cette émission de Tous d'abord de la Passerelle.
Merci aux artistes aussi qui sont venus.
Ah oui,
pour être interviewés.
Les artistes et les interviews de hier de la soirée VIP. Merci, merci.
Merci.
C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Embarquez dans l'aventure Tous d'abord.
L'émission des ambassadeurs du théâtre.
En direct et en public au kiosque de la Pépinière.
18h30 à 20h.